Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ça se présentait mal depuis un certain temps. Bah voilà, c'est officiel, Daniel Kretinsky ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos. Alors cela dit, est-ce que c'est vraiment fini à 100% cette histoire? On va quand même poser la question à Mathieu Pechberti dans un instant. Sinon, alors voilà un exemple de groupe qui pourrait être rapidement ringardisé par l'intelligence artificielle. Le cours de bourse de Téléperformance, géant mondial des centres d'appel, a fortement chuté aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pourquoi ? Parce qu'un concurrent suédois a fait une annonce fracassante qui fait beaucoup de mal au groupe. On vous racontera ça aussi bien sûr dans un instant. On parlera ce soir de ces accords de libre-échange, vous savez, qui font tant causer du côté des syndicats agricoles. On en parlera dans 10 minutes avec le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Et puis, on parlera de cette étude pas très encourageante qui nous a dit ce matin que pour la deuxième année d'affilée, le regard des investisseurs américains sur l'économie française était encore un petit peu détérioré. On verra ça à 18h30 avec nos experts qui arrivent bien sûr jusqu'à 20h. Voilà le programme non exhaustif comme tous les jours. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc, c'est officiel. Et pour tout dire, c'est pas vraiment une surprise. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Vous nous l'annonciez en creux depuis quelques semaines. Ça a été concrétisé. Daniel Kretinsky ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos. À moins que... Est-ce que c'est vraiment fini cette affaire, Mathieu, pour vous ?
Eh bien, sûrement pas. Effectivement, comme vous le dites, cette rupture de négociation était effectivement attendue depuis presque plusieurs mois, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit bien qu'à la fois Daniel Kretinsky, mais aussi tous les acteurs autour du dossier Atos, on pense à Airbus qui est en train de négocier cette fois le rachat des activités de cybersécurité, celles qui sont dites stratégiques par le gouvernement, ou encore le premier actionnaire d'Atos, David Layani, le patron de OnePoint, tous, entre guillemets, attendent en réalité que la mandataire qui a été nommée, Hélène Bourboulou, se positionne sur le dossier. C'est-à-dire qu'Atos doit renégocier sa dette, plus de 3,5 milliards d'euros de dette à refinancer d'ici 2025. Elle doit renégocier avec ses banques et les autres créanciers. Et tous les acteurs du dossier donc attendent de savoir ce que Hélène Bourboulou va décider en termes de reprise d'activité d'Atos, en termes d'écrasement de la dette, en termes de nécessité à réinvestir dans la société. Et oui, effectivement, Daniel Kretinsky reviendra sûrement dans le dossier. Son entourage, en tout cas, nous explique qu'il reste toujours intéressé par ses activités, ce qui posait problème là, c'était finalement les conditions de cette opération qui avait été à la fois critiquée par de nombreux actionnaires et qui avait non seulement déclenché également des plaintes au pénal de la part d'un petit actionnaire qui s'appelle Alix pour corruption. Bref, tout ça pour dire qu'on va encore devoir attendre quelques semaines dans ce dossier pour savoir qui va véritablement se positionner autour du dossier Atos, mais on reverra vraisemblement Daniel Kretinsky.
Ce qui nous donnera l'occasion d'en reparler, c'est pas la première et c'est sans doute pas la dernière.
Exactement.
Si merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. À l'instant, c'est la SNCF qui annonce ses résultats pour 2023. Bénéfice de 1,3 milliard d'euros l'an dernier, mais en baisse par rapport au 2022. On avait fait quasiment le double à 2,4 milliards d'euros. C'était à l'époque une année record. Pour la SNCF, 18h03, je vous disais, la déconfiture aujourd'hui du titre Téléperformance, géant bien sûr des centres d'appel, le titre a perdu 14%. Tout ça parce qu'un concurrent suédois a communiqué sur ce que l'intelligence artificielle pouvait lui apporter, ce qui risque effectivement de ringardiser grandement le français. Hélène Cornet.
C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois. Et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la fintech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche et développement pour conforter son avance.
Voilà, téléperformance dans la tourmente, mais ça on en parlera avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 19h30 sur BFM Business. Et puis alors ça aussi on va en parler parce que c'est une étude qu'on regarde tous les ans de très très près. Quel regard portent les investisseurs américains sur la France ? La dernière étude de la Chambre de commerce franco-américaine tombée ce matin le dit, pour la deuxième année de suite, le regard a continué de se dégrader en 2023. Marion Basma.
Un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Pointée du doigt par les investisseurs, la fiscalité, la complexité administrative et réglementaire, le coût des licenciements, mais surtout le coût de la main-d'œuvre considérée comme la principale faiblesse du pays et plus globalement sa faiblesse historique. Le climat social est aussi un irritant de l'attractivité de la France pour 80% des répondants, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France, tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé aux métiers de demain, surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique.
Marion Basma, le Bitcoin est en grande forme. Il a passé tout à l'heure la barre des 60 000 dollars et se rapproche de son record absolu, qui est encore un petit peu loin, 69 000 dollars quasiment. Record qui avait été atteint en novembre 2021. Et puis alors, puisqu'on parle crypto, on a appris aujourd'hui que près de 2000 personnes avaient porté plainte pour escroquerie en France contre les dirigeants d'une plateforme d'investissement crypto qui s'appelle Omega Pro, qui a disparu sans laisser de trace après avoir promis, tenez-vous bien, des rendements pouvant aller, je cite, jusqu'à 300% en 16 mois maximum, dites donc. Écoutez Elias Bourhan, qui est l'un des avocats des plaignants, justement.
Malgré les avertissements de l'autorité des marchés financiers dès 2020, des milliers d'investisseurs français ont été attirés par les rendements importants pour finalement se retrouver incapables de retirer leurs fonds en 2022. On a une personne qui a investi 1 million d'euros, par exemple. On a des personnes qui ont investi directement à travers leur propre entreprise et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros à ce jour. Donc notre objectif, c'est simple, c'est tracer les flux financiers en crypto-monnaie sur la blockchain, procéder à des saisies afin de demander la restitution de ces sommes aux investisseurs.
Voilà, Maître Elias Bourhan, l'un des avocats des plaignants. Deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, on apprend que le fonds souverain saoudien a signé un accord de partenariat avec l'ATP, donc le circuit de tennis masculin, sans en dévoiler le montant. Vous savez que les Saoudiens ont accueilli leur premier tournoi du circuit l'an dernier. Et puis alors, dans la série Rien n'est gratuit, on apprend que la pub va débarquer sur Prime Video le 9 avril prochain. Ou alors, si vous voulez échapper, il faudra payer la modique somme d'1,99€ de plus tous les mois. 18h07, on va sur les marchés retrouver Étienne Brack depuis Euronext. Bonsoir Étienne, du vert ce soir à la Bourse de Paris. Hein.
Bonsoir. Du vert encore et toujours, un CAC 40 qui tente de se rapprocher des 8000 points, mais pour l'instant c'est difficile. 7954 points, plus 0,08%. Heureusement pour le CAC 40, Téléperformance ne pèse plus grand chose de l'indice, donc la baisse de 14% ce soir n'a pas trop affecté l'indice parisien. Téléperformance qui a même perdu 28% ce matin en séance. Le titre a été suspendu pendant 3/4 d'heure, vous l'avez expliqué, suite à l'arrivée d'un éventuel concurrent et de l'intelligence artificielle. Nouvelle séance qui a été rythmée par des publications d'entreprises. C'est compliqué compliqué pour Worldline qui perd 10% dans le secteur des paiements ex-star de CAC 40 qui revient sur des plus bas historiques alors que vous avez une croissance qui n'est plus au rendez-vous et un groupe qui est très prudent. Worldline qui est dans le secteur des paiements. Et puis à l'autre côté, ça se passe très bien pour Interparfums qui gagne un peu plus de 5% à 52,40€ avec un groupe qui se dit confiant grâce notamment à la licence Lacoste qui va booster sa croissance cette année. Le tout donc dans un contexte où le CAC 40 clôture étale, plus 0,08%, proche toujours des 8000 points à 7954 points. Attention, les volumes d'échanges étaient très faibles puisque demain à 14h30, nous aurons les chiffres d'inflation. Donc grande prudence avant cette donnée très importante.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement bien sûr ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui perd 0,2%, 38894 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui aussi 0,24%, 15 997. Il est 18h09, Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur est donc l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Franck Riester, le retour au commerce extérieur. Bonsoir Franck Riester.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité. Vous êtes désormais de nouveau, mais vous avez élargi votre champ de compétences puisque vous êtes ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, ça tombe bien. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été faite par l'AMCHAM, l'American Chambers, sur le regard des Américains sur la France. On en dira un mot. Vous êtes aussi ministre de la Francophonie et des Français de l'étranger. Beaucoup de questions à vous poser. Demain, vous allez au Salon de l'agriculture, peut-être pour expliquer pourquoi les accords internationaux, c'est quelque chose de formidable et qui profite à l'agriculture française. À mon avis, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les convaincre, mais on va en parler. D'abord, une question sur le Qatar. Hier, donc, visite d'État, première visite en 15 ans du cheikh Al-Thani, de l'émir Al-Thani, pardon. Il a annoncé 10 milliards investis dans la France, dans l'économie française. Quelques gros secteurs ont été définis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces 10 milliards ?
D'abord, c'est une annonce très importante. 10 milliards d'investissements d'ici à 2030 par le Qatar, dans le cadre notamment du plan France 2030 pour réindustrialiser le pays et décarboner le pays, en investissant notamment dans des secteurs d'avenir. Et puis, c'est la démonstration des bonnes relations entre le Qatar et la France. Il y a des exportations et des échanges commerciaux qui sont presque à 3 milliards d'euros en 2023. Beaucoup d'entreprises françaises qui vont au Qatar, qui exportent au Qatar, et des investissements qu'on souhaite plus nombreux du Qatar en France pour accompagner la décarbonation de notre économie et la réindustrialisation. Les secteurs d'activité, vraisemblablement, c'est autour du secteur électronique, autour du secteur de l'énergie, autour de tout ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle, de calcul quantique. Vous savez que la France est leader avec les États-Unis sur l'intelligence artificielle. C'est un des grands, grands champs d'investissement pour l'avenir, une priorité pour notre pays, et si on peut être accompagné par un certain nombre de pays, dont le Qatar, c'est une très bonne chose.
Oui, mais justement, la question était de savoir, est-ce que, j'en profite pour dire que Bruno Bonnel, justement, qui porte France 2030, sera mon invité la semaine prochaine, ça tombe bien. Ça sera les investissements directs dans des entreprises ou via
dans
des véhicules
deux. Dans les deux, il y aura à la fois des investissements communs dans des fonds avec BPI ou avec d'autres fonds comme Ardian, Tikeo et autres. Et ou alors directement dans le capital des entreprises.
D'accord. Donc ça c'est pour quand ?
Bah d'ici à 2030. Et donc
il y a des 10 milliards d'un seul coup versés là.
Non, c'est pas on fait un chèque pour tel truc. D'accord. C'est un engagement d'investir 10 milliards d'euros en France dans les projets qui sont des projets prioritaires de la France, mais aussi du Qatar.
Franck Riester, demain donc vous allez au Salon de l'agriculture. Demain il y aura beaucoup de monde, hein. Je crois il y aura Édouard Philippe.
Oui, je crois.
Votre ami Édouard Philippe.
Oui.
Il y aura l'ancienne première ministre Elisabeth
Borne. A priori.
C'est devenu quand même un peu un cirque, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, le Salon de l'agriculture.
Bah, samedi, c'était compliqué, mais pour depuis, objectivement, les échanges sont nombreux. C'est bien que les responsables politiques aillent à la rencontre, à cette occasion, des agriculteurs, des acteurs de l'agriculture. Il ne faut pas qu'ils le fassent que à ce moment-là, mais à ce moment-là, c'est aussi un moment particulier. Moi, je vais passer la journée, rencontrer à peu près toutes les organisations professionnelles, toutes les filières. Je crois que c'est important, notamment parce que l'agriculture, en tant que ministre du Commerce extérieur, est un des grands fleurons à l'international. 82 milliards d'euros d'exportation et un excédent dans la balance commerciale de plus de 6 milliards d'euros.
Oui, il faut mieux le souligner parce que c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Troisième pilier, l'exportation. Juste avant, un petit commentaire, puisque vient de sortir là à l'instant un sondage ELAB pour nos confrères de BFM TV. Mobilisation des agriculteurs, toujours très largement approuvée par l'opinion publique, par les Français, 83%. La réponse du gouvernement, toujours jugée insuffisante, 53%. Même si ça va dans le bon sens. Vous pensez que vous pouvez aller plus loin ? Le gouvernement peut aller plus loin où il y a un moment, vous ne pouvez pas tout lâcher.
Mais il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de travailler avec le monde agricole pour permettre de relever les défis auxquels il est confronté, accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, et puis relever les défis de demain, autour de la souveraineté alimentaire, autour de la protection des agriculteurs, mais aussi de nos compatriotes, et de protection de la nature, et puis enfin sur le renouvellement des générations. Je crois que le président de la République, samedi, le Premier ministre, hier, ont bien démontré à quel point le gouvernement dans son ensemble, et Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher sont très mobilisés aussi, ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont une action ou un lien avec l'agriculture, pour dire on est là à votre écoute, à vos côtés, pour relever les défis de votre secteur d'activité si important dans notre souveraineté.
Oui, mais le gouvernement a déjà beaucoup donné, si vous préférez, vous avez raison, peut-être un meilleur mot, mais il y a aussi des revendications, y est, qui ont été largement entendues, on voit bien. Est-ce que ça peut continuer jusqu'où ? Parce qu'après, vous allez avoir tout le secteur du BTP aussi qui est en train de les confronter à une crise du logement absolument sans précédent. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres secteurs aussi qui sont en grande difficulté.
Il y a des choses qu'on peut régler rapidement, des choses qui vont prendre du temps à être réglées. Ce qui compte, c'est se donner une méthode. C'est la méthode qu'a bien précisé le président de la République et le Premier ministre. Il y aura un rendez-vous à l'Élysée dans 3 semaines pour faire un point d'étape sur tous les chantiers qui ont été lancés. Et puis, bien sûr, sur le temps long, le Premier ministre fera un point tous les mois avec les principaux acteurs de cette transformation de l'agriculture pour lui permettre à la fois, encore une fois, de s'inscrire dans l'avenir, de renouveler les agriculteurs, d'assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et de permettre de faire tout ça en protégeant les agriculteurs, les acteurs eux-mêmes de ce secteur, les Français et la nature.
Une question à l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, puisqu'il y a une loi d'orientation agricole qui va être présentée bientôt. En tous les cas, c'est ce que nous disait hier soir Agnès Pannier-Runacher. Elle peut passer 149.3, vous pensez ? Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter ?
Bah écoutez,
pour cette loi,
c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Chacun sera devant ses responsabilités. Mais chacun sera devant ses responsabilités. Comme chacun sera devant ses responsabilités lors du vote du projet de loi de ratification de l'accord du CETA avec le Canada, qui sera à l'ordre du jour du Sénat le 21 mars prochain. Est-ce que oui ou non, les sénateurs vont voter un accord commercial qui permet à la France, en 5 ans de sa mise en œuvre provisoire, de voir ses excédents commerciaux augmenté nettement, des exportations augmenté de plus de 33% en 5 ans, et y compris dans le secteur agroalimentaire et agricole. Je vous donne un chiffre. Plus 60% d'exportation des vins et spiritueux, des fromages, et plus quasiment 50% des vins et spiritueux en 5 ans au Canada. Parce que c'est un bon accord. Et donc, quand j'entends certains dire qu'il faudrait que la France se referme sur elle-même...
Écoutez-moi. Il y a deux poids, deux mesures.
Mais non, il n'y a pas deux poids, deux mesures.
La viande.
Mais non. Mais écoutez-moi. La France est un grand pays exportateur. Deux tiers des calories produites en France sont exportées. Nous avons besoin d'exportation. Et les accords commerciaux sont pas en soi l'alpha et l'oméga, mais sont pas en soi à rejeter. Ça dépend de l'accord et de sa capacité.
Donc, capacité à la France va signer le CETA.
Et notre capacité à les contrôler. La France a signé le CETA et maintenant il faut le ratifier par le Parlement français. Il y a eu un vote positif à l'Assemblée nationale en 2019. Il faut maintenant que le Sénat le vote. ce texte de ratification, c'est important parce que nous avons un accord qui nous...
Et le parlementaire communiste, évidemment, qui dit qu'il faut surtout pas le voter. Hein.
Qui est bénéficiaire pour nos agriculteurs, bénéficiaire pour nos industries. Finalement, voter contre le CETA, ça serait voter contre nos agriculteurs. Sur la filière bovine dont vous parliez, c'est 51 tonnes de bovins qui ont été exportés du Canada vers la France. C'est quasiment rien du tout en 2023. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les filières sur lesquelles on a toujours, avec juste raison, un regard tout particulier parce que ce sont des filières sensibles dans la compétition internationale. Et donc, nous devons soutenir un accord qui est bon pour nos agriculteurs et en même temps, ne pas lâcher sur ce qu'est notre volonté, c'est que notre commerce européen soit moins naïf, qu'on impose à un certain nombre de producteurs à l'étranger des mesures miroirs, c'est-à-dire des obligations de production similaires à ce que nous imposons aux nôtres.
Oui, mais... J'ai écouté le président de la République nous expliquer que les grands accords internationaux, il ne fallait plus du tout qu'ils soient ceux qu'on avait déjà signés, que le Mercosur, il ne fallait pas le signer.
Vous n'avez pas entendu bien le président de la République. Il a dit qu'il fallait soutenir le CETA, que c'était un bon accord, mais qu'en revanche, il y a un accord qui, dans la négociation, est moins bon, nettement moins bon, qui est l'accord du Mercosur et qu'on ne veut pas signer en l'État, bien sûr. Parce qu'un accord en soi, c'est un cadre d'échange particulier. S'il n'y a pas d'accord commercial, pour autant, les échanges continuent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, d'accord commercial, d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Pour autant, il y a des échanges avec le Mercosur. Ouais. Simplement, l'avantage d'un accord commercial, c'est que ça encadre les relations. Ça permet de bien préciser quels sont les engagements des uns et des autres. Encore faut-il qu'ils soient bien négociés. Le Mercosur, pour l'instant, il ne nous satisfait pas. L'accord CETA... Nous satisfaisait.
Oui, et... C'était en 2019, le climat a bien changé.
Oui, mais on a vu les résultats de sa mise en œuvre provisoire, qui sont des résultats ultra bénéficiaires pour l'économie française dans son ensemble, avec une balance commerciale en fort excédent et en forte augmentation avec le Canada, et notamment dans le secteur agroalimentaire et agricole.
Juste un point, si jamais demain, dans le 21 mars, le Sénat ne ratifie pas.
Ne vote pas le projet de loi de ratification.
Voilà, je simplifiais. Qu'est-ce qui se passe
Ça repasse à l'Assemblée nationale.
Et vous pensez que ça passera?
On verra. Mais vous savez, c'est très
important. C'est pas évident.
On verra bien. Mais toujours est-il que avant.
Attendez. Ça va pas être évident. Le climat est très différent.
Attendez. Moi, il y a le vote au Sénat. Je pense qu'on peut, en responsabilité, prendre des choix quand on est un parlementaire qui sont bons pour notre économie. Bon pour les acteurs économiques, bon pour nos agriculteurs. Il faut expliquer aux producteurs de fromage qui voient leur exportation augmenter de 60% au Canada, qu'il faudrait revenir sur les avantages qu'ils ont eus en termes d'exportation vers le Canada. Il faut expliquer pourquoi les indications géographiques protégées, les fameuses AOP, vous savez, de fromage bien connus en France, ne pourraient plus être protégées.
La France était
mais vraiment... Le lait, et ensuite il est transformé. Ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers, on est très excédentaire en exportation. On exporte beaucoup plus que ce qu'on importe. Est-ce qu'on va fermer nos frontières ou est-ce qu'on va continuer d'accompagner celles et ceux qui produisent du lait à pouvoir trouver des débouchés à travers les produits laitiers? C'est ça qu'il faut dire aux Français et l'expliquer. Le commerce international est nécessaire pour l'agriculture, nécessaire pour que nous ayons un pays souverain en matière alimentaire.
C'est ce que vous allez expliquer demain au salon de l'agriculture.
Mais bien sûr.
Pensez que vous allez être entendu.
Les agriculteurs le savent très bien. En revanche,
certains, les vins et spiritueux, vous l'avez dit, les céréaliers, pas tout le monde.
Alors après, il y a certaines filières qui ont besoin d'être davantage accompagnées que d'autres, mais c'est parfois pas le commerce, je dirais, à l'extérieur de l'Union européenne. C'est parfois le commerce à l'intérieur de l'Union européenne. C'est par exemple ce qu'a proposé le président de la République de dire écoutez, sur un certain nombre de normes environnementales, d'utilisation de produits phytosanitaires par exemple, regardons ceux auxquels vous avez le droit en France, ceux auxquels d'autres pays européens ont le droit, et essayons d'harmoniser tout ça pour pas que vous soyez en situation de concurrence déloyale. En fait, le commerce international, c'est bon, à condition qu'il y ait la concurrence loyale. Et donc, regardons tout ce qui est positif et ce qui est négatif, travaillons-y sans rejeter la totalité de ce qui est très bénéfique à notre pays en termes de croissance, en termes de finances et en termes d'emploi.
Regardez aussi ce qui se passe sur les céréaliers avec l'Ukraine, c'est très compliqué. Vous avez des céréaliers français qui sont des grandes exploitations, mais qui ont en face
des grands exportateurs,
des énormes
Alors sur les céréales, on a réagi puisque la Commission européenne sur l'agriculture avec l'Ukraine a pris un certain nombre de décisions, notamment d'ores et déjà de mesures de sauvegarde automatique sur le sucre, sur la volaille et sur l'œuf. C'est-à-dire, en gros, si jamais il y a des importations trop importantes, automatiquement seront mis en place des tarifs à partir d'un certain niveau. Et en ce qui concerne les céréales, là aussi, la Commission va s'engager très clairement pour mettre en place des mesures de sauvegarde s'il y a une déstabilisation du marché des céréales.
Oui, elle existe, mais bon.
Non, attendez. Il y a une déstabilisation dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, sur l'Union européenne, c'est pas vrai. Si jamais ça devait exister, la Commission prendra des mesures de sauvegarde.
Un mot, est-ce que vous avez le chiffre du mois de janvier pour le déficit du commerce extérieur, sachant que sur l'année 2023, ça a été mieux, mais ça reste quand même catastrophique. Vous avez
l'année 2023, il y a une nette baisse, notamment parce que le coût de l'énergie, des importations de l'énergie, s'est amélioré. Et donc, pour autant, il y a encore des efforts à faire. Il faut toujours regarder pas que les commerces de biens, mais il faut regarder aussi le commerce des services et les revenus des investissements qu'on fait à l'étranger, parce qu'on a la balance des paiements qui est en amélioration, qui est à moins 33 milliards, donc elle est encore mauvaise. Donc il faut travailler. En accompagnant le maximum d'entreprises à l'international, en continuant d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays.
Justement.
Et en envoyant ce message de mobilisation générale des acteurs économiques dans le déploiement à l'international et en arrêtant d'imaginer que c'est en refermant nos frontières, nous Français ou nous Européens, qu'on va relever les défis économiques de demain.
Justement, je crois que vous étiez du reste cet après-midi à l'American Chambers qui sortait son 24e baromètre sur l'AMCHAM. 24e baromètre sur l'attractivité de la France ou pas. On voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé des investisseurs américains. Ils continuent à plébisciter la France comme le meilleur pays au sein de l'Europe. Ouais. Mais en même temps, on voit que le contexte économique qui s'est amélioré, plus 33% pensent qu'il s'est amélioré, mais ils sont 32% à trouver que ça s'est détérioré. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le coût du travail. Comment est-ce que vous interprétez, vous, ce baromètre?
D'abord, vous l'avez dit, une satisfaction, c'est que la France est
33,
toujours...
32.
Oui, mais toujours, à la fois dans le nombre d'investissements sur son sol et de la perception des acteurs économiques internationaux, le pays le plus attractif...
D'Europe.
Ouais. Ça, c'est pas le fruit du hasard. Non. C'est le fruit de toutes les réformes qui ont été faites par le président de la République depuis 2017 pour améliorer le climat des affaires. Et on va continuer en matière de fiscalité, en matière d'investissement dans l'innovation, la recherche, en matière de simplification, et c'est là où il y a beaucoup à faire. C'est le point le plus saillant de cette étude, de ce baromètre, c'est qu'on est encore trop compliqué en France. Il faut qu'on simplifie. C'est le mot d'ordre du Premier ministre, hein. Simplification, simplification, simplification. Vous savez qu'il y a un projet de loi de simplification qui va être présenté dans quelques temps par Bruno Le Maire. Une deuxième loi sur l'industrie verte pour raccourcir notamment les délais pour pouvoir investir dans la décarbonation de notre industrie. Il faut simplifier. Moi, je suis en train de préparer un plan spécifique de simplification de la vie des exportateurs. Il faut qu'on simplifie nos démarches administratives. Il faut qu'on simplifie les normes. Il faut qu'on garde l'ambition en matière sociale, l'ambition en matière environnementale, mais qu'on fasse confiance aux acteurs économiques. Oui, ça, c'est la priorité des priorités pour notre gouvernement.
Franck-Christophe, toute dernière question. Vous rentrez d'Abu Dhabi, où se tenait justement une réunion des ministres du commerce sur l'OMC. L'OMC est un peu en mort clinique. On voit qu'elle est complètement bloquée, notamment à cause des Américains. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez le sentiment qu'un jour, elle pourra de nouveau régler les contentieux ou, comme vient de le dire le ministre du commerce américain, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus bloqué. Depuis la nomination de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la docteur Ngozi Okonjo-Iweala, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Il y a 2 ans, à Genève, il y a eu déjà des premiers progrès dans les discussions. On a réussi à avoir des accords sur la pêche, par exemple. On a remis en place un groupe de travail pour réussir à remettre en fonction le règlement des différends de l'OMC. C'est long, c'est difficile. Vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de tensions géopolitiques. Mais parce qu'il faut
faire la démagogie.
Ça permet de mettre sur la table multilatérale des sujets qui touchent au business sur la totalité du globe. Mmh. Il faut qu'on puisse avoir ces lieux d'échange, de discussion sur la politique industrielle et les subventions qui sont faites par certains pays. Je pense à la Chine, par exemple. Il faut qu'on puisse avoir des règlements des différends pour pas que ça soit une guerre commerciale entre pays, mais qu'il puisse y avoir un règlement international aux conflits qu'il peut y avoir commerciaux entre tel ou tel acteur économique ou tel pays. C'est la clé pour la croissance mondiale et on va continuer, nous Français, de mobiliser toute notre énergie pour trouver des solutions d'amélioration du fonctionnement de cette OMC.
Franck Riester, d'énergie en tous les cas.
Bah, il faut.
Pour, voilà, il faut si on veut essayer de rétablir le commerce extérieur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu nous voir.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business, Mathieu Pechberti nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Mathieu. Et Marc-André Camel aussi, vous êtes associé senior et directeur chez Bain et compagnie. Et le troisième mousquetaire est en train de s'asseoir. Bonsoir Emmanuel Le Chypre.
Bonsoir. Quel sens du timing toujours.
N'est-ce pas allez, on commence par Atos, c'est donc officiel. Hein. Alors c'est pas totalement une surprise, Atos a annoncé ce matin qu'il ne négocier plus avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui non, ne rachètera pas ses activités d'info-gérance. Alors, la fin des discussions s'est faite par consentement mutuel quand on lit le communiqué
absolument
de presse. Mathieu Pechberti, est-ce que vous dites quand même que c'est un échec qui remet les compteurs à zéro et peut-être qui oblige le groupe à revoir sa stratégie de sauvetage?
C'est la fin de la première manche, mais il y avait effectivement, comme vous l'avez dit, pas de suspense sur le fait que cette opération était déjà enterrée en fait depuis plusieurs semaines voire même quelques mois. Et quand vous dites effectivement que ça a été fait par consentement mutuel, c'est en fait c'est important, c'est la petite astérisque en bas du communiqué de presse, puisque aucune des deux parties ne voulait rompre les négociations alors qu'elle savait bien qu'elle n'arriverait pas à se mettre d'accord pour pas que l'autre se retourne contre elle. Bon, il n'y a pas d'animosité entre Atos et Daniel Kretinsky, mais Atos a aussi des petits actionnaires sur le dos qui, eux, sont assez, pour certains en tout cas, assez énervés. Et ça a été écrit comme ça dans le texte, justement, pour que il n'y ait pas de prise à des procédures judiciaires ou en tout cas à des plaintes. Une fois qu'on a dit ça, Atos aujourd'hui dans une situation où un mandataire ad hoc a été nommé il y a maintenant 15 jours, qui s'appelle Hélène Bourboulou, qui est connue pour avoir fait un nombre de restructurations incalculables.
Qui est venue nous voir ici, Edwige, à de nombreuses
reprises. Absolument,
voilà,
tout à fait.
Oui, souvent reçue par Edwige, et donc il connaît bien ces dossiers compliqués. Et Atos doit renégocier d'ici la fin de l'année 2025, mais donc ça doit être fait là, d'ici la fin de l'année 2025, un peu plus de 3,5 milliards d'euros de dette. Et donc,
avec 22 établissements bancaires, j'ai lu ça aujourd'hui.
Oui, c'est mais bon, c'est habituel. Si vous regardez le groupe Altis, il y en a à peu près 1000. Donc voilà. Oui. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes autour d'Atos qui cherchent à grignoter des bouts, que ce soit Daniel Kretinsky, que ce soit Airbus qui est aussi en négociation pour acheter des activités de cybersécurité, ou de OnePoint qui est une société plus petite mais qui est le premier actionnaire d'Atos aujourd'hui qui a aussi envie de racheter des activités d'Atos, en fait, attendent d'arriver devant Hélène Bourboulou pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut racheter. Donc, en fait, on attend cette période qui va arriver mi-mars, où on aura une vision un peu plus claire des comptes et où tous ces acteurs, tous ces requins pourront se positionner et faire des offres de reprise.
Y compris Kretinsky.
Mais bien sûr, enfin, moi, j'ai aucun doute sur le fait que Daniel Kretinsky reviendra à la charge. Et sûrement pas, en tout cas c'est ce que moi j'ai comme information assez à la fois assez vague mais assez précise pour dire que il fera sûrement une offre de reprise, mais pas que sur cette activité qu'il cherche à racheter jusqu'ici, qui s'appelle l'infogérance. En gros, c'est un peu l'informatique, gestion de parc informatique un petit peu à l'ancienne.
Mais alors, c'est-à-dire
sur le reste des activités,
une offre sur l'ensemble,
sauf sur celles qui posent problème au gouvernement, ces fameuses activités de cybersécurité et les supercalculateurs où il y a des contrats avec l'OTAN. Voilà, c'est celles-ci qui, a priori, en tout cas, sont en train d'être vendus à Airbus. On attend de voir ce que ça va donner.
Alors, on n'enterre pas Kretinsky, c'est ça qu'il faut se dire, finalement.
Non, mais en tous les cas, parce qu'il était dans les tuyaux, c'était, comme l'a dit Mathieu, c'était qu'effectivement, il arrêtait de négocier. Dans tous les cas, c'est ce qu'on savait depuis quelques jours. Il arrêtait de négocier. Il attend plutôt qu'on revienne vers lui.
Ouais.
Et puis, que tout le monde a compris, il suffit de discuter avec le bâtiment en face de BFM Business, avec le Pentagone à la française,
le ministère des Armées,
pour savoir que pour eux, c'était impossible que ça soit vendu soit à des étrangers, soit à des entreprises totalement privées. Et donc, il fallait que ça soit genre Airbus ou un grand de ce genre-là. Et puis, en plus, les supercalculateurs aussi, qui permettent pour les essais nucléaires, un truc très important pour l'industrie française. Là, ça ne pouvait pas tomber dans les mains, notamment.
Mais alors, en même temps, est-ce que
d'autres,
non, mais est-ce que ce n'est pas une opportunité, justement,
il a plus grand service et ça lui est tombé sur le nez.
Non, mais alors, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour Atos, dans la mesure où, finalement, le deal était totalement en faveur de Daniel Kretinsky, qui rachetait la Tech Foundation pour un euro symbolique?
Oui, non, mais alors, si on se passe du point de vue d'Atos, en fait, si vous voulez, de toute façon, Atos va être obligé de vendre un pan entier de son périmètre. Donc il y a six mois, on disait on va vendre cette activité d'infogérance qui n'a absolument mais rien de stratégique. Hein. Okay.
Alors, à part toutes les données personnelles de l'ensemble des Français.
C'est sûr, là-dessus, Tcherkov, mais oui. Bon.
Ah bah si.
Il y a comme des emplois dans l'infogérance.
Non, mais il y a des contrats sur ces activités. Donc oui. Après, moi je veux bien. Enfin, la gestion des données personnelles, de l'assurance maladie, très bien. Mais enfin, bon, Daniel Crétin,
et les impôts aussi, entre autres.
Vladimir Poutine.
Mais enfin, alors, juste, attendez. Non, mais une question avant qu'on passe au sujet suivant.
Autant sur la cybersécurité, il y a un sujet parce qu'il y a des contrats avec le ministère des Armées, il y a des contrats avec l'OTAN.
Sur les données militaires.
Là, ça ne rigole pas entre guillemets. Sur le reste, franchement, je pense. Enfin,
bon, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus.
Mais pirater quand c'est géré par
l'hôpital d'Armentières.
Oui, mais alors quid de la nationalisation temporaire? Est-ce que vous pensez que ça peut être sur la table ou pas du tout?
En fait, personne n'en a envie. Ça a été agité par quelques députés d'opposition qui voulaient, par définition, comme c'est le jeu politique, embêter, pour ne pas dire autre chose, le gouvernement. Quand vous discutez avec la personne ou ceux qui dirigent le ministère de l'économie aujourd'hui, ils veulent de moins, ils veulent pas mettre le nez là-dedans. Ils veulent que le mandat ad hoc se déroule. Voilà, que Hélène Bourbon décide de ce qui va se passer.
On pose la question à Nicolas Dufour, que donc le patron de BPI l'a dit, puisqu'il sera ici.
Bien, pour ce dossier Atos, parce qu'il nous aura l'occasion quasiment tous les soirs de parler du dossier Atos qu'on suit régulièrement sur BFM Business.
À demain.
Oui, à demain, oui, en quelque sorte. Franck Riester, donc, était dans ce studio à quelques instants. Il s'est battu quand même, là. Hein. Il a mouillé la chemise pour défendre les accords de libre-échange.
Oui, absolument, mal, il prend un risque, oui, notamment sur le CETA, parce que le CETA avait été signé. Alors, il a été signé, mais en fait, il n'avait pas été. Il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Oui. Il l'avait été à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire, ouf, en 2019. Oui. Mais là, maintenant, ça arrive au Sénat. Il y a une niche parlementaire communiste qui a décidé d'attaquer, d'expliquer pourquoi il ne fallait pas ratifier ce CETA. Maintenant, ça va être compliqué, je pense, parce que si jamais ce n'est pas voté au Sénat, eh bien, ça doit repasser devant l'Assemblée nationale. Voilà. À mon avis, les accords internationaux, par les temps qui courent, n'ont pas forcément bonne presse.
Il était point prolixe sur l'accord avec le Mercosur, entre l'UE et le Mercosur, qui est vraiment la pomme du discorde du moment. Quand même.
Alors, Mercosur, c'est la pomme du discorde du moment. Ouais. On attend de revoir. Ce qu'il a défendu, c'est de dire, attendez, regardez les chiffres, notamment sur le CETA, ça a plutôt bénéficié à l'agriculture française, aux filières bovines. Donc, regardez les chiffres, les vins et spiritueux. Voilà, c'est ce qu'il dit sur le CETA. Sur le Mercosur, il dit, pour l'instant, on est déjà en train de négocier. On vend déjà beaucoup en Amérique du Sud. Bon.
Non, mais c'est un point très important. Emmanuel de Chypre, il va falloir l'expliquer aux agriculteurs qui font 60% de leur chiffre d'affaires à l'export, notamment à travers ces accords de libre-échange, finalement, qu'on les remet en cause.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne seront pas fondamentalement remis en cause. Ça paraît difficile à croire, parce qu'effectivement, il y a une partie quand même très majoritaire des agriculteurs qui profitent au final. Parce qu'en fait, dans tous les débats, dans toutes les discussions, on envisage toujours les choses que de l'aspect produits étrangers qui arrivent en France.
Oui.
Et on oublie effectivement tous ces produits qu'on vend à l'étranger. Mais d'ailleurs, c'est un peu toujours les effets d'optique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grande partie des agriculteurs. La France agricole qui va bien, vous ne la voyez pas aujourd'hui. Elle n'est pas dans les rues. Elle est pas,
ce que disait le patron du Crédit Agricole, hein, Philippe Brassac, qui disait, attention, il y en a quand même beaucoup qui se portent bien.
Il y en a énormément qui se portent bien. Et encore une fois, les petits producteurs souffrent des mêmes problèmes que toutes les TPE, PME, qui ont des problématiques transversales liées aux excès de réglementation, aux surcharges administratives et à l'instabilité aussi de ces réglementations. Et il y a même plus beaucoup, c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, à ça se rajoutait le sujet fiscal, on disait il y a trop d'impôts, etc. Aujourd'hui, c'est même plus tellement un sujet. Ça va pour faire la transition avec le baromètre Hamcham dans les sujets autour de la France. Au fil des années, moi j'ai l'impression que le sujet fiscalité a plutôt régressé, en fait, dans le côté handicap
c'est ce qu'on va voir dans un instant.
Alors il y a une différence entre la réalité et la perception, malheureusement.
On reste, par contre, et de plus en plus, de façon de plus en plus marquée, sur toutes les problématiques de complexité administrative.
Ben voilà qui nous amène justement à cette étude, alors qui sort sur, une fois par an, qu'on regarde tous les ans avec grand intérêt. Merci encore Marc-André Camel d'être venu nous voir ce soir. Donc associé senior et directeur chez Ben & Company, membre du board et de l'AMCHAM. L'AMCHAM et Ben & Company qui publient tous les ans ce baromètre sur la perception qu'ont les investisseurs américains de l'économie française. Alors je rappelle, 140 dirigeants de filiales d'entreprises américaines que vous interrogez, qui nous disent quoi cette année? Alors qui disent oui, la France reste sur la première marche du podium de l'attractivité européenne. Mais Vous dites quand même pour la deuxième année d'affilée, ça se dégrade un petit peu. L'attractivité s'érode, il y a des irritants. Il y a encore des réformes qui se font attendre. C'est quoi le sentiment d'ensemble?
Alors écoutez, d'abord, merci de me recevoir. C'est le 24e baromètre qu'on a publié cette année. Et dans ce baromètre, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles.
Quand même.
Il y a un contexte économique pour les 2 à 3 années à venir qui est perçu comme plutôt positif par les dirigeants des entreprises américaines en France. Il y a des prévisions d'emploi dans ces entreprises qui sont soit stables, soit en augmentation. Donc ça, c'est quand même très positif. Et puis, du côté des maisons mères de ces entreprises américaines, la France garde une position de favorite. On est le pays en Europe qui reçoit le plus d'investissements américains. Et on a 52% de nos dirigeants qui ont répondu cette année, qui nous disent que les maisons mères ont une perception positive ou très positive de la France. Donc il y a des bonnes nouvelles. Et pourquoi? C'est parce qu'on est le tremplin pour l'Europe. On est un grand marché. Nous-mêmes, on est un marché dynamique, en fait.
Est-ce que ce n'est pas par défaut, depuis que le Brexit est entré en vigueur, depuis qu'il y a une instabilité politique en Allemagne, notamment? Est-ce qu'on n'est pas premier par défaut, quand même?
Pas par défaut. C'est une des raisons qui contribue à l'attractivité de la France aujourd'hui. Mais on est un vivier de talents, reconnu, en fait. On est un terreau d'innovation. Et on a un environnement qui est devenu, depuis quelques années, beaucoup plus pro-business qu'il y a quelques temps. Moi, je fais ce baromètre depuis des années et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le même sentiment. Alors, certes, il faut reconnaître qu'on n'est plus au niveau euphorique du post-Covid. Il y a 2 ans, on avait 74% d'entreprises américaines qui disaient que la France était excellente, etc. On n'est plus à ce niveau-là. On est redescendu dans l'attractivité de la France.
Oui, alors, enfin... Quand même, si on va être tout à fait honnête, sur la tendance qu'on ressent en lisant ce baromètre... On sent un petit message d'alerte sur le fait que les faiblesses historiques de la France, notamment sur le coût du travail et sur l'empilement des mesures administratives, commencent à poser problème et à irriter véritablement les investisseurs qui sont fatigués.
Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte mondial qui est très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation, des problèmes d'approvisionnement, des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient. Et donc, il y a un contexte qui met une pression sur la performance économique des entreprises. Dans ce contexte-là, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût global du travail.
Oui.
Et donc là, on peut parler de fiscalité ou pas, mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements, en fait. Et il y a la complexité administrative. Ces 2 points sont les points qui irritent le plus les investisseurs. Parce qu'ils les empêchent, quand ils prennent des décisions sur 20 ans, ils les empêchent d'avoir une clarté et une certitude sur leur business plan à 20 ans.
Edwige.
Moi, je partage votre analyse, hein, parce que je vois, Guillaume, vous avez mis, ça se dégrade encore. Oui, mais enfin, ça reste quand même positif.
Donc, ça reste positif.
Ce qui est important, c'est... La perception de la France, de la maison mère, est bonne, voire excellente. Et ça, comme c'est à la maison mère que se décident les investissements, hein, c'est pas ici en France, il faut pas se leurrer, c'est là-bas que ça se passe. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même un point positif. Non, il y a un point quand même qui reste un peu négatif, c'est la dette française qui inquiète beaucoup les Américains, en disant d'accord, il y a un climat, comme vous l'avez souligné, qui est pas très positif, mais 69% se disent inquiets ou très inquiets face à la situation de la France en termes d'endettement.
Oui.
Plus 3 points, ça fait quand même pas mal.
Et pourtant, Edwige, je vous rappelle que le ratio dette-PIB est plus important encore aux États-Unis qu'en France.
Ouais. Oui, mais d'abord, le coût de la dette...
Alors, avec une situation différente, mais enfin...
Oui, le coût de la dette va peser, en fait, sur l'économie de la France. Et, en fait, le risque ici, la dette en soi, sur un investissement donné d'une maison mère américaine, ça ne va pas jouer énormément. Ce qui joue, c'est la perception de stabilité. Ce qui a effrayé, il y a 10 ans, les investisseurs américains par rapport à la France, c'était l'instabilité. Instabilité fiscale, instabilité budgétaire, etc. Et le risque, les dirigeants de ces entreprises se disent, mais cette dette, quelque part, on va la payer. Et si pour la payer, il faut
mais
changer...
Mais elle continue de s'envoler, on est bien d'accord.
Voilà, s'il faut changer le système fiscal, ben, nos businessmen ne vont pas tenir.
Emmanuel Chypre, est-ce que vous dites qu'enfin, ben, finalement, cette dette française et le fait qu'on continue à pousser le tas de sable sans cesse commence enfin à poser problème?
Oui, alors après, ça fait très longtemps qu'on nous dit que ça va finir par poser problème, et pour l'instant, ça pose pas de problème.
Là, en l'occurrence, si, un peu, puisqu'on sent que dans la perception, en tout cas, il y a une inquiétude.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que, en fait, il y a vraiment... enfin je veux dire deux quinquennats, deux ambiances différentes quoi. C'est-à-dire que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est vraiment le quinquennat flamboyant du retour de l'attractivité de la France. C'est-à-dire que si vous mettez bout à bout sur la période 2017-2022 toutes les premières réformes qui ont été faites en matière fiscale, sur la taxation du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les premières baisses d'impôts sur les productions, d'impôts de production. Si vous mettez la gestion, parce que ça a joué en faveur de l'image de la France, la gestion de la crise Covid vis-à-vis des entreprises, la façon dont on a soutenu le travail, dont on a soutenu les entreprises, c'est vrai que, franchement, avec... Puisque l'attractivité, Guillaume a raison de le souligner, est quand même une question de relativité, avec dans le même temps des Anglais qui sortent un peu du jeu européen et des Allemands dont on se rend compte que finalement la chancelière Merkel n'était pas si extraordinaire que ça et n'a pas fait autant de travail que ça, laissant l'Allemagne finalement un peu encalaminée. Et que là, donc du coup, si vous mettez tout ça bout à bout, encore une fois sur 2017-2022, c'est vraiment une période bénie pour l'attractivité française.
Deux quinquennats, deux ambiances,
et
c'est
après,
ce que vous dites.
Vous voyez bien que depuis 2022, finalement, l'opinion de sur l'attractivité de la France, elle progresse pas beaucoup, voire elle recule, qu'on retrouve un petit peu nos vieux démons, et qu'effectivement, à travers les vieux démons, il y a tout ce sujet autour de la gestion des finances publiques qui pose un vrai problème de...
Oui, mais alors, sachant que la politique de l'offre dont vous parlez d'Emmanuel Macron, qui a été et qui est toujours un axe majeur de sa politique économique, pourtant n'est pas remise en cause lors de ce deuxième quinquennat.
Si, parce que vous avez eu justement, pour des raisons notamment liées à la dégradation des finances publiques, un certain nombre de promesses qui avaient été faites, qui ont été...
Quoi, les impôts de production qui sont décalés mais qui ne sont pas annulés.
Oui, alors ça quand même...
Honnêtement, la réforme des retraites, on ne peut pas dire que ça ait laissé une très bonne image à l'étranger, parce que finalement, il y avait cette impression effectivement d'instabilité qui a été corrigée pour une impression de dynamisme. Et maintenant, on n'est plus dans un sentiment d'instabilité, mais plutôt de piétinement, voire d'immobilisme. Hein, c'est-à-dire que effectivement, la réforme des retraites, elle a quand même été à l'étranger génératrice de déception, que les réformes, la réforme de l'État que tout le monde attend, et y compris les investisseurs étrangers, elle n'arrive pas, et que donc là on est vraiment dans une situation, dans une dynamique qui est bien moins bonne.
Marc-André Camel, est-ce que vous dites que cet effet waouh qu'Emmanuel Macron a peut-être d'une certaine façon incarné pendant des années, c'est peut-être un petit peu émoussé quand même aux yeux des investisseurs malgré tout depuis...
On a posé la question sur la perception des réformes engagées dans le second quinquennat.
Oui.
Pas le premier. Dans ce baromètre-là, on s'est intéressé...
Le report de la suppression de la CVAE dont on parlait, vous en parlez vous-même.
On en parle aussi, mais en fait, sur les réformes déjà engagées, RSA, Pôle emploi, retraite, il y a deux tiers de nos répondants qui nous disent avoir une perception très positive, en fait, positive ou très positive. Donc, il y a quand même une acceptation et un plébiscite quasiment de ça. Mais il y a des attentes. La première attente, c'est les réformes qui sont annoncées, que ce soit les cotisations sociales, le lycée professionnel. Il faut vraiment les engager et les faire. Et puis, justement, ce qui est très, très important, c'est de ne pas décevoir sur les réformes qu'ils ont promises. La CVAE, qui a été repoussée de 2024 à 2027, il faut vraiment qu'elle se tienne. On ne peut pas revenir en arrière sur toutes les avancées qui ont été réalisées, impôts sur les sociétés, impôts de production, etc. Il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout.
Mais alors, sachant que la vraie ligne rouge pour les investisseurs, et ils le disent tous les ans, ça serait l'augmentation des impôts, ce qui est quand même la grande promesse de ce deuxième quinquennat, et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors peut-être déguisé. Voilà. Déguisé. Évidemment, j'anticipais.
C'est vraiment très important parce que ce qui compte, c'est la stabilité fiscale. Encore une fois, les entreprises américaines ne cherchent pas à ne pas payer d'impôts, elles cherchent une stabilité pour leur plan à 20 ans.
Mais tout de même, parce que Edwige disait tout à l'heure, et effectivement, c'est pas en France que ça se décide, les investissements dans le pays, c'est aux États-Unis. Mais en même temps, j'ai quand même du mal à croire que dans les sièges américains, on a une lecture aussi fine de la politique française et de la politique économique française que celle que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'en gros, le RSA, j'ai du mal à croire que ça représente autant. Et donc ma question, c'est, il y a quand même certainement une influence des dirigeants américains en France sur... finalement, leur filiale.
Ah oui.
Ça se passe comment, en fait, le process de...
Je pense que les dirigeants français des filiales américaines transmettent à leur maison mère et essayent de porter, en fait, y compris par notre baromètre, une vision qui soit la plus objective possible de ce qui se passe. On n'hésite pas à dire les choses qui ne vont pas.
Hein. Oui. C'est pour ça que j'avais une question à vous poser, parce que c'est les points clés, surtout vu des États-Unis. C'est un quid de l'Europe, parce que de l'Union dite européenne, vous voyez. Est-ce que ça, les dissensions qui existent entre le coup franco-allemand, est-ce que ça a un impact sur l'image de l'Europe et sur l'image de la France, voire sur l'image de l'Allemagne? Première question. Et vous parliez de stabilité économique. Est-ce que les risques d'instabilité politique, notamment l'arrivée éventuelle d'un Rassemblement national au pouvoir, est-ce que c'est quelque chose qui est perçu aux États-Unis et mal perçu ?
Et nous, ce que nous disent nos investisseurs, c'est que ce qui les intéresse au premier plan, c'est une vision sur le long terme. Et on a été habitué, en France, on a vu des changements de majorité politique, ça n'a pas empêché les investissements américains de se réaliser. C'est plutôt la stabilité sur le long terme et qu'un cadre juridique, un cadre réglementaire soit stable.
Donc un mouvement populiste comme le Rassemblement National arrive au pouvoir en France, pour vous, c'est pas un problème. Enfin, pour vous, je ne vous pose pas la question personnellement, bien sûr. Non, mais pour votre enquête et pour les investisseurs
On a posé la question dans notre baromètre de cette année, on a posé la question sur les élections européennes. Ouais. On n'avait pas d'élections présidentielles ou législatives, mais sur les élections à venir cette année, l'impact sur les investissements,
En même temps, sans minimiser un changement de cap politique, je pense que les investisseurs américains voient aussi notamment ce qui se passe chez nos voisins et en Italie, et c'est vrai que ça n'a pas bouleversé le paysage économique comme
est très, très différent,
imaginer. Hein,
parce que
oui, bien sûr.
Il y a un président...
Oui, mais on s'attendait quand même à un espèce de big bang politique, et finalement, il n'y a pas ça. Mais j'ai une autre question à vous poser. La France, vous le dites, reste la première destination pour les investisseurs américains en Europe, mais puisque ça fait 24 ans que vous menez cette étude, est-ce que l'écart se réduit avec nos voisins et est-ce que il se peut qu'on soit menacé pour l'année prochaine ou celle
Alors écoutez, il a eu tendance ces 5 dernières années à grandir, non pas se réduire.
Donc on a été... donc on prend de l'avance.
Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le Royaume-Uni est un peu sorti du jeu. Oui. Il n'est plus dans notre palmarès des pays en concurrent de la France que sur le capital humain.
Ça lui a vraiment coûté aussi cher que ce qu'on anticipait.
Absolument. L'Allemagne, on la voit dans notre palmarès sur le contexte économique, mais quand on interviewe nos dirigeants américains, ils nous disent qu'en fait l'Allemagne est bien moins positionnée que la France sur le contexte économique. Donc on a l'impression que ces quelques dernières années, l'écart s'est agrandi, s'est pas réduit en fait.
J'ai une question très rapidement, il nous reste 30 secondes, Marc-André Camel. Il y a une étude sur l'attractivité de la France, il y a quelques semaines qui est sortie de la part des conseillers du commerce extérieur qui faisait un gros focus sur les questions d'insécurité. On se remet à avoir peur pour la sécurité de ses employés en France quand on est une entreprise étrangère de manière générale. Est-ce que c'est un point que vous avez remarqué qui a été mis en avant dans vos études?
Ça n'a pas été mis en avant par les entreprises sur les décisions d'investissement en France par rapport à d'autres pays en Europe.
Et par extension, est-ce que les JO peuvent être un crash test en l'occurrence?
En revanche, c'était le principal irritant pour les collaborateurs des entreprises américaines. Et ce n'était pas sorti sous l'angle de la sécurité, c'était le climat social. Les turbulences, il y a 81%.
Les manifestations, les grèves.
Voilà. 81% de nos répondants ont dit que les collaborateurs étaient plutôt inquiets.
Et la fiscalité est un autre irritant pour les collaborateurs.
C'est le deuxième irritant.
Il faut le dire.
Mais est-ce qu'on vous dit qu'on va regarder les Jeux Olympiques du côté des investisseurs américains comme un véritable crash test finalement, que ça sera un élément
crash test? Non, il y a en fait une certaine attente positive. C'est un test et il y a une certaine attente en fait de ce que ça va donner.
Mais de la part des Français aussi, je peux vous le dire.
Oui.
Voilà pour cette étude donc de l'AMCHAM qui est sortie ce matin, qu'on suit régulièrement tous les ans sur BFM Business. Merci beaucoup Marc-André Camel. Merci de passer nous voir, associé senior et directeur chez Bain & Company. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Emmanuel, merci beaucoup. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Demain, Véronique Bédague, la présidente de Nexity, elle a beaucoup, beaucoup de questions à lui poser, là, parce qu'il y a un plan social qui est annoncé.
Ça vient d'être annoncé.
Crise du logement, comment faire pour s'en sortir?
Demain, 18h10 en direct, bien sûr, 18h57. Nous reviendrons un instant, bien sûr.
Oui, restez avec nous. Nous allons parler de beaucoup de choses, des investissements qataris à venir. 10 milliards, c'est quand même pas mal. Et puis, du droit de grève, doit-on le remettre en question ou pas? Vaste sujet.
J'ai philosophique, s'il en est, évidemment.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.